Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Comics Weekly. Je suis Steve.
Et je suis Monsieur Onebunny.
Donc, deuxième semaine de ce podcast hebdomadaire où on s'intéresse uniquement aux sorties VO, c'est-à-dire les sorties US de la semaine. Et donc, c'est les sorties du 26 mai. On va parler de Marvel et on va parler aussi de DC avec un numéro 1 avec des nouvelles directions pour certains titres. Bref, un peu de tout quoi.
Un peu de tout, ouais. Voilà. Du bon et du moins bon, d'ailleurs.
Oui, voilà, bah oui.
Cette semaine.
Autant la dernière fois il y avait quasiment que du bon. Là, il y aura du un peu moins bon. Mais c'est aussi ça, c'est pour vous dire qu'est-ce qui vaut le coup d'être vraiment acheté et qu'est-ce qui est, on va dire, passable. On va pas déroger à la règle, hein, comme toujours, on va commencer par des news. Cette semaine, une des grosses news, c'est Marvel qui annonce que pour la sortie du volume 3 de X-Men le 8 juillet, donc volume 3 numéro 1, qui sera scénarisé par Victor Gischler et dessiné par Paco Medina, ils ont décidé de faire au niveau mondial un X-Men Day.
Qui consistera en...
Plein de choses.
Ben voilà, non mais voilà, non mais c'est ça qui me faisait marrer avec cette news-là, c'est qu'en fait il y aura un X-Men Day. Bon, ok. Le truc c'est que, donc comme tu disais, ouais, un nouveau X-Men numéro 1. Donc faut se rappeler qu'en 91 sortait le X-Men numéro 1 avec la fameuse couverture qui a fait le tour du monde et qui s'est vendue à je ne sais combien de millions d'exemplaires avec Magneto, là. Tu te rappelles Steve, bien sûr.
Ouais, avec 5 covers différentes.
Voilà, de Jim Lee.
Et bah là, c'est un peu le même principe, il y a 5
Et ben
covers
là,
différentes.
voilà, rebelote, on nous ressort une espèce de couverture. Alors je sais pas si c'est une dépliante ou si elle est en 5 parties.
Elle est en
Ou
5
si par...
parties. Elle est en 5
Ah, c'est-à-dire
parties.
faudra acheter chacun.
Bah ce sera si j'ai bien vu, c'est les mêmes visuels qu'on avait vus qui nous présentaient l'histoire des vampires et à chaque fois c'est une découverte.
Donc d'ailleurs je suis déjà beaucoup moins emballé par ce premier arc, si c'est l'arc X-Men contre les vampires.
Bah oui, c'est ça en plus.
Ouais, voilà quoi, faut voir. Je me demande si ce nouveau titre va faire long feu avec le temps, avec les mois, avec les années. Je ne sais pas. En tout cas, X-Men Legacy et Uncanny continuent.
Oui, X-Men Legacy continue, rechange de direction à nouveau et reprend un petit peu la direction qu'il avait au début. Enfin, pas exactement au début en fait, la direction qu'il avait au moment d'Utopia, c'est-à-dire centré un petit peu plus sur Rogue, sur Danger et compagnie. Mais c'est toujours Mike Carey au scénario. Donc voilà, bon bah on verra, il y aura des animations dans les comic shops américains. Normalement, il devrait y en avoir partout dans le monde, donc à voir si dans les comic shops français ce sera le cas, je sais pas du tout. On va continuer, bah d'ailleurs tu vas continuer avec une de tes news.
Donc en septembre, DC va sortir des one-shots sur le thème de la guerre. Donc on retrouve World War Tales, qui si tu te souviens était un ancien magazine, enfin c'est pas nouveau,
Ouais.
mais là ça va ressortir en fait en septembre pour un numéro. Ce sera Darwin Cook au scénario et Ivan Brandon au dessin. Il y aura également Our Fighting Forces par Beckley Moore et Chad Hardlin au dessin. Our Army at War et Star Spangled War Stories par William Tucci et Giustiniano au dessin.
Billy Tucci continue les histoires de guerre.
William Tucci, là.
Oui, enfin c'est Bill étant le diminutif de William, il se faisait appeler
Oui.
Billy Tucci quand il faisait sa série She.
D'accord, ok.
Je sais pas si tu te rappelles de cette série, la même
Vaguement, ouais,
petite
vaguement, vaguement.
parution en France, fut un temps.
Et il y aura enfin G.I. Combat par Matt Sturgis et Phil Winslade au dessin. Sachant que les couvertures seront toutes réalisées par Darwin Cook, Mark Schultz, Jeff Darrow, Joe Kubert et Brian Bolland. Donc il y a quand même pas mal de monde là-dessus. La question c'est pourquoi ce mois-là ils vont sortir des comics de guerre. Je sais pas.
Moi je dirais que c'est un petit peu une espèce de pseudo-suite au revival qu'ils avaient fait de toutes les séries pendant Blackest Night. Il y avait eu un mois où il y avait plein de séries qui s'étaient arrêtées fut un temps, qui avaient eu un numéro supplémentaire pendant Blackest Night avec pas mal de personnages transformés en Black Lanterns. Donc il y avait eu Catwoman comme ça qui avait eu un numéro 82, on avait eu un épisode supplémentaire de Starman, donc le 81. Il y avait eu Weird Western Tales, enfin il y avait eu 7 ou 8 séries comme ça. Donc peut-être que ce revival ayant tellement marché, ça leur a donné envie de faire un revival spécial guerre. Pourquoi
Bon.
pas? Parce que c'est que des titres de vieilles séries de toute façon.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est World War Tales était le plus connu, peut-être. Mais voilà, donc pour les amateurs, en tout cas, bah là, ils seront servis, quoi. Ce sera le mois spécial en septembre, donc.
Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais pourquoi pas, après tout. Ça peut être super sympa, hein. On continue d'autres news. Howard Mackie, qui avait un petit peu disparu ces derniers temps.
Bah, on l'a vu sur Spider-Man, la saga du clone, en fait.
Mais avant ça, il avait été sur Mutant X, il avait fait pas mal de choses, pas mal de Spider-Man aussi dans les années 90.
Ouais. Bah, le Relaunch aussi.
Oui, puis même avant, puisqu'il avait pris, Web of Spider-Man. Donc, enfin bon, bref, beaucoup de choses. Il devient donc Contributing Editor chez Viper Comics. Alors, Viper Comics, j'ai regardé les titres, j'en connais aucun, honnêtement.
Bon, comme ça, c'est dit.
Mais si, Mark Waid avait repris Boom comme ça, enfin, il avait même, je crois, lancé Boom. Mais bon, peut-être qu'un gros nom comme ça sur une petite compagnie peut donner des choses intéressantes. Donc, on a la preuve avec Boom. Qui a vraiment beaucoup de succès actuellement. Pourquoi pas pour Howard Mackie et Viper Comics.
Bah, c'est sûr qu'Howard Mackie était plus très populaire ces dernières années avec les choses qu'il avait fait. Mais bon, ça peut donner un résultat sympa, comme tu dis. Peut y avoir de bonnes surprises. D'autant qu'il n'était pas mauvais non plus. Dans les années 90, il avait fait de bonnes choses aussi. Donc voilà.
Ok. Dernière news de cette semaine. Dynamite a acquis les droits intellectuels de Chaos Comics. Alors Chaos Comics, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est une petite compagnie qui avait émergé en 1994 et qui avait duré jusqu'en 2002. Ensuite, en 2002, ils avaient continué de publier certains trucs chez DDP, mais c'était pas grand-chose. Donc ils ont acquis tout le catalogue, à l'exception de Lady Death. Puisque ça faisait partie des gros noms de leur catalogue. Il y avait Lady Death, il y avait Evolerny, il y avait aussi Chastity. Entre autres, il y avait déjà aussi Jade. On verra ce que va en faire Dynamite. Ils avaient aussi eu quelques licences, comme la licence de la WWE, donc le truc de catch.
Ouais.
Ils ont sorti quelques numéros. Ça, par contre, ils les auront pas, puisque la WWE sort maintenant des comics dans une boîte d'édition, je ne sais plus le nom, mais ils ont sorti une série là qui sort depuis 3 mois maintenant, qui s'appelle WWE Heroes.
À lire sous Extar. Hein, puisque...
Oui, c'est une grosse merde. Faut être honnête. On va voir ce que ça va donner. Un retour des voleurs ni, ça peut le faire. C'était
ouais,
pareil
ça
en
peut
France.
Être sympa, surtout que ça dépend qui va bosser dessus. Par exemple, si c'est Garcenis.
Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait le faire. Ça pourrait très bien lui coller d'ailleurs ça.
Voilà. À voir donc.
Il y a eu quelques sorties Chaos Comics en France. Ils avaient tenté, mais ça a pas duré longtemps et ça s'est très vite cassé la gueule. Je crois que c'était même Chaos Comics lui-même qui éditait en France.
En tout cas, il y a eu du Evilerny en français effectivement. Ouais. Je me rappelle en kiosque en avoir vu. Il y a très longtemps.
J'avais acheté le premier à l'époque. J'avais aussi acheté le premier Lady Death et j'avais pas continué, mais de toute façon ça a pas continué très longtemps de mémoire. Bien, bon, c'est tout pour les news cette semaine. On passe maintenant aux reviews et on commence avec notre traditionnelle double review. La double review de la semaine, c'est du Marvel une fois de plus, et c'est un nouveau numéro 1, Secret Avengers. Le scénario d'Ed Brubaker, les dessins sont de Mike Deodato.
Donc on assiste à la création de cette autre équipe d'Avengers, puisque la semaine dernière on avait vu la création des Avengers tout court. Là c'est les Secret Avengers. Alors bon, déjà le terme Secret, est-ce qu'il est bien choisi pour cette équipe? Je ne sais pas. Au fait, en gros, c'est un peu les X-Force ou les Losers version Avengers, quoi. L'équipe d'intervention spéciale.
Déjà, elle avait fait couler beaucoup d'encre cette série avant même sa parution, puisqu'on se demandait quels seraient les membres, et Marvel avait bien joué son rôle d'annonce en montrant un par-ci, en révélant deux la semaine d'après. Tranquillement, ils avaient fait monter le buzz comme ça.
Ouais, donc par exemple, on a des personnages comme... déjà, le leader, c'est Steve Rogers, le vrai Captain America, on va dire. Enfin, l'original, en tout cas.
Oui, voilà, l'original, ouais. Puisque c'est plus lui Captain America, maintenant c'est Bucky.
Oui, voilà. C'est Bucky. Mais donc là, il dirige cette équipe d'Avengers un peu particulière, puisqu'il y a des anciens, il y a des nouveaux, il y en a qui sont restés très peu avec les Avengers. Par exemple, on a The Beast, qui joue un petit peu le rôle de l'informaticien de l'équipe, tu vois, le mec qui reste en coulisses, mais qui est le stratège aussi. Donc, on a Valkyrie, par exemple. Alors, Valkyrie, qu'est-ce qu'elle vient faire là? On sait pas trop, parce qu'elle a jamais été membre des Vengeurs, autant que je sache.
Je réfléchis, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas en fait, je voudrais pas trop m'avancer, mais je crois pas.
On retrouve Black Widow, on retrouve War Machine, on retrouve.
Moon Knight.
Moon Knight, ouais. Nova.
Nova. Ant-Man
vraiment,
aussi. Le Ant-Man des Thunderbolts.
Le Ant-Man des anciens Thunderbolts, ouais. Puisque les Thunderbolts sont changés, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure.
Pas Hank Pym, donc.
Voilà, Hank Pym.
Non, pas Hank Pym.
Non, pas en oui, pas, pas en Pym, l'autre, je ne sais plus son nom d'ailleurs.
Eric quelque chose, je me rappelle.
Oui, voilà, le Ant-Man récent. Mm-hmm. Et donc, voilà. Donc,
et Sharon Carter.
Que tu et Sharon Carter aussi, qui est là. Mais alors, je sais pas vraiment si elle fait partie de l'équipe ou... Si, je pense.
Si, elle fait partie de l'équipe.
Et donc voilà, donc vraiment des gens qui a priori n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres. Bon, ça commence sur une mission d'infiltration. En fait, ils essayent de récupérer une espèce de d'artefact. En fait, on sait pas trop ce que c'est. Ils récupèrent une boîte.
Ça s'appelle normalement le Serpent Crown, mais en fait, il s'avère que c'est pas ça.
Voilà.
C'est pas en tout cas le bon Serpent Crown qu'ils ont trouvé, c'est un autre truc qui ressemble à du serpent, mais c'est pas ça. Et donc Beast émet l'hypothèse que ça fait peut-être partie d'un ensemble de pièces, mais voilà.
Donc bon, on voit au fur et à mesure en fait des scènes, les différents membres qui ont rejoint l'équipe. Le problème que j'aborderai en premier, c'est que effectivement, on ne sait pas trop pourquoi ils ont tous accepté de former cette équipe-là. On n'assiste pas trop vraiment à la formation, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont déjà formés quand l'épisode commence. Et le peu de flashback qu'on voit, on voit juste un moment Moon Knight, par exemple, qui hésite, qui fait bon, j'ai besoin de rédemption, etc. Donc Steve Rogers dit bah écoute, bienvenue chez nous.
Il y a aussi Ant-Man qui vient chercher.
Oui voilà, c'est vite expédié, c'est vraiment.
Je pense qu'il va nous distiller les infos au fur et à mesure, quoi.
J'espère, parce que là, en tout cas, sur le premier numéro, il y a un cliffhanger final assez sympa.
Ouais.
Mais un peu déjà vu en plus.
Voilà.
Vu ces derniers mois, quoi. Donc
la question qui me taraude plus, en fait, plus que ce cliffhanger, c'est qu'est-ce que Nova vient foutre ici, en fait. C'est ça qui me.
Ils ont tous des rôles particuliers. On a l'impression que c'est vraiment un pot pourri.
Sachant que Nova est à l'autre bout de la galaxie avec le Nova Corps. Pourquoi viendrait-il se joindre aux Vengeurs comme ça en solo?
En fait, la seule explication logique, c'est que sa série s'arrête aux États-Unis et que ils sont obligés de le caser là. Mais non, mais enfin voilà quoi. Il y a cette espèce de. En fait, on a l'impression que tout ce que cette équipe est 100% éditoriale. Donc je m'explique, c'est-à-dire que Nova s'arrête, donc on va le foutre dans cette équipe-là. War Machine, il a le vent en poupe avec le film Iron Man. Allez hop, on va le foutre là-dedans. Il fallait un X-Men, bah allez hop, on va te coller The Beast. De toute façon, parce que Wolverine est déjà dans les deux autres équipes. Donc
War Machine, de toute façon, sa série s'est arrêtée. Donc voilà, lui non plus n'avait plus de série.
Oui, en plus. Donc non, voilà. Non, mais c'est vraiment un ramassis de plein de monde qui n'ont vraiment pas grand chose à faire ensemble.
On l'avait pas mal vu ces derniers temps entre Hulk et Hercule.
Ouais, et en fait, le but de Brubaker, là, le challenge de Brubaker, c'était justement de nous expliquer. Pourquoi tous ces gens qui n'ont rien à voir ensemble se retrouvent d'un seul coup à travailler ensemble et à former une équipe? Et justement, bah ça on l'a pas dans le premier numéro. Donc c'est un peu dommage et c'est pas transcendant non plus, quoi.
Moi c'est pareil, j'étais un petit peu déçu, honnêtement. Je m'attendais un peu mieux de ce truc-là, bah déjà le fait qu'il y ait le nom de Brubaker dessus. La composition de l'équipe m'a tiré pas mal. Et bon, je savais pas que c'était Deodato au dessin. Ça a été une bonne surprise en plus parce que j'aime bien son style, mais je sais pas, l'ensemble m'a laissé un goût de pas fini, quoi, franchement. Bon, d'accord, c'est un arc, mais je sais pas, je suis pas plus accroché que ça, quoi. Là j'aurais limite pas envie de lire le deuxième.
Ouais, c'est pas super attrayant. Et le problème aussi avec Brubaker, la crainte que j'avais, c'était que bon, il est vraiment très bon quand il s'occupe de persos Daredevil, enfin les personnages solo, quoi, en fait.
Ouais, Iron Fist, même Cap, hein, c'était très bien.
Ah oui, Cap pendant des années, effectivement, c'était très bien. Un petit peu moins bien maintenant, mais bon, quoique, hein, ça remonte peut-être après, je ne sais pas.
Ouais, écoutez nos reviews de Cap dans les Comic City, vous comprendrez.
Et on se souvient que sur les X-Men, bah voilà, quoi, c'était pas terrible, il était beaucoup moins inspiré, donc je sais pas s'il est vraiment à l'aise pour travailler sur des groupes. Et donc voilà, donc vraiment un premier numéro, en demi-teinte, je suis vraiment sceptique au fait. Je suis vraiment sceptique. Alors autant d'un côté on a Bendis qui s'en est bien sorti, mais comme c'est toujours Bendis, on n'a pas ce renouveau, quoi, sur les Avengers. Et là on aurait pu l'avoir avec Brubaker, mais bon, bah, pour le moment Brubaker, voilà, quoi, ça fait un peu pétard mouillé, quoi, ce premier numéro.
Je sais pas. Moi je sais. Bon, je vais lire le deuxième quand même, mais je sais pas si j'irai plus loin.
Mmh.
Le deuxième sera le turning point pour moi parce que déjà ce cliffhanger est peut-être assez surprenant, mais bon voilà quoi, ça commence à devenir presque du déjà vu comme cliffhanger et ça me fatigue un peu. Donc voilà, je lirai le deuxième, mais pas sûr que je continue au-delà du deuxième.
De toute
Franchement
façon, on
déçu.
risque fort d'en reparler dans quelques mois, quand ce sera en français aussi.
Bien, on va passer maintenant aux reviews d'It Solo. Et bah c'est toi qui vas commencer, Benny, en premier.
Ouais, je vais commencer avec DC, avec du DC. Donc cette fois-ci, c'est DC JLA, pardon, JLA Generation Lost, numéro 2, puisque le numéro 1 était sorti il y a 2 semaines déjà. Alors une semaine sur deux, au fait, on a Brightest Day et JLA Generation Lost l'autre semaine. Alors le principe de Generation Lost, c'est quoi? Alors c'est pas de suivre la génération des gens qui ont regardé Lost depuis 6 ans.
Ouh la
C'est
vanne, ouh ho.
non, ben voilà quoi, parce que Generation Lost, moi l'équipe en question d'ailleurs qu'on retrouve, donc c'est une équipe d'anciens de la JLA, au fait, il y a Booster Gold, il y a Blue Beetle, enfin voilà quoi, il y a pas mal de persos comme ça, tout à fait secondaires, qui ont un petit peu, au fait, un aspect de loser, quoi. C'est un petit peu la JLA secondaire, quoi, au
C'est
fait.
l'équipe qu'on avait vue quand il y a eu le relaunch de la JLA dans les années 80. Bah après. Un petit peu après le crossover Legends, donc en
D'accord.
87-88, quelque chose comme ça, c'était Justice League, qui s'est ensuite appelé Justice League International.
Donc moi à l'époque je ne l'avais pas lu tout ça, mais j'avais entendu dire que c'était assez comique au fait. Alors là, on est toujours un petit peu dans une atmosphère au fait assez sombre. Hein, mais quand même, ce qui est assez énorme, alors en fait le pitch. Donc le pitch, c'est tous ces anciens de la JLA, tous ces seconds couteaux qui se retrouvent et essayent de partir à la poursuite de Maxwell Lord. Donc Maxwell Lord, pour leur situer, c'est un super vilain qui est mort avant Infinite Crisis. Wonder Woman le tuait, au fait, à l'époque. Mais alors là, ce qui est très fort dans Generation Lost, c'est qu'au fait, tout le monde a oublié que Maxwell Lord a été tué par Wonder Woman. Et seul les personnages, donc les héros de la Justice League Generation Lost, ont ce souvenir et savent ce qui s'est vraiment passé. Et alors ce qui est très marrant, c'est que ça commence par exemple ce numéro 2 sur une scène où Booster Gold montre à Superman la scène où Wonder Woman lui casse le cou, et Superman ne voit absolument rien au fait sur l'écran. Il voit Wonder Woman brandir une épée, et au fait il voit pas la même chose qu'eux. C'est un petit peu le. Tu vois, c'est un petit peu comme si c'était Brand New Day et que les gens, en fait, ne voient plus. Enfin,
Un
c'est ce
peu
qui se
comme un
passe un
vampire
peu
dans
dans
un
le.
miroir ou un vampire sur un film, quoi. Pas
Oui, enfin,
d'image.
c'est aussi le syndrome un peu Spider-Man, quoi. C'est-à-dire les gens l'ont tous vu se démasquer, mais personne s'en rappelle, et apparemment, il n'y a que lui qui sait ce qui s'est vraiment passé. Et ben là, c'est pareil, quoi. Là, au fait, il n'y a que les membres de cette équipe qui savent ce qui s'est vraiment passé avec Maxwell Lord, qui savent que c'est un pourri, qui savent qu'il faut l'arrêter absolument. Mais quand ils vont en parler à Wonder Woman, à Batman, à Superman, c'est énorme parce que ils les croient pas, ils les prennent pour des petits rigolos, ils font bon allez Maxwell Lord, ouais bof, c'est peut-être une menace, mais sans plus quoi, on verra, on s'en occupera plus tard.
De toute façon, ils savaient que Maxwell Lord était un pourri, puisque à l'époque il gérait l'équipe Justice League International, comme par exemple Guy Ritchie gérait les Avengers fuite un temps.
Voilà.
Et donc il les avait trahis déjà, donc il connaissait le personnage, quoi. Donc
Mais
c'est
là, il y a des
vraiment.
scènes hyper comiques parce qu'il parle par exemple du fait que Blue Beetle, le premier Blue Beetle, a été tué par Maxwell Lord ou du projet OMAC, et même Batman, etc. Enfin, c'est Dick sous le costume maintenant. Même Batman, Superman, etc. ne se rendent pas compte que il est mêlé à tout ça. Ils n'en ont absolument pas le souvenir. Et donc c'est une espèce de partie au fait d'échec qui se met en place entre les membres de cette équipe et Maxwell Lord. Et voilà, bon, ils vont essayer de trouver le moyen d'arrêter Maxwell Lord dans un monde où finalement tout le monde se fiche pas mal de Maxwell Lord. Et Maxwell Lord, lui, sait très bien en fait ce qu'il a fait, il en a le souvenir, mais ça l'amuse énormément qu'il n'y ait que deux trois personnes qui s'en souviennent, quoi. Enfin, deux trois personnes, ils sont plus que ça.
D'où cette cover avec justement la partie d'échecs.
Oui, voilà.
Voilà.
Et donc franchement, ça s'annonce très très bon, très très drôle. Enfin, très très drôle. C'est, enfin voilà quoi. C'est une espèce de Norman Osborn dont tout le monde aurait oublié qu'il était le bouffon vert, quoi. Maxwell Lord. Mais alors là, vraiment.
Faut préciser aussi que de façon, l'histoire est écrite par Keith Giffen, qui avait écrit justement à l'époque Justice League International. Donc les personnages, il les connaît bien. Donc il y a aussi ça qui permet de.
Il y a Keith Giffen et il y a Jude Winnick au scénario. Ah ouais. Alors là, bien plus inspiré que ce qu'il nous a fait, par exemple, récemment sur Titan. Franchement, c'est très, 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 très bon. Et les dessins donc, sont signés Joey Bennett et c'est tout, d'ailleurs. Joey Bennett, c'est au dessin.
Pas trop bon style, ça, par contre.
Quoi ?
Je suis pas fan. Je suis pas fan de Joe Bennett. Ce qu'il a fait sur les Titans, par exemple, qu'on a vu récemment.
Non, mais là, franchement, il a un aspect bien plus. Non, mais là, franchement, ça passe super bien, je trouve. Ça passe super bien. Il a vachement amélioré son trait et ça ressemble vraiment à du.
Je l'ai pas feuilleté, hein, celui-ci. J'ai pas eu l'occasion de le feuilleter. Donc, ouais, peut-être. Enfin, je te crois sur parole, hein, y a pas de problème. Mmh. C'est vrai que, on dirait c'est Joe Bennett au dessin, je dirais, bon, c'est pas grave. Si l'histoire est bonne, déjà, c'est le principal.
Non, franchement l'histoire est excellente, il y a vraiment de très grands moments, je vais pas en dire plus, mais voilà quoi, le pitch est très drôle. Franchement moi ça m'intéresse même plus que Brightest Day.
D'accord.
À l'heure actuelle.
C'est définitivement un bail quoi.
Ah oui, totalement, ouais. Très très bon.
Ok. On retourne chez Marvel avec le Thor 610, scénario de Kieron Gillen, dessin et ancrage, enfin plutôt on va dire presque peinture. Doug Braithwaite, enfin quoique à la couleur ils sont plusieurs, ce qui donne cet aspect peinture. Bon, c'est tout simplement un épilogue à Siege. Thor est de nouveau recueilli dans la cité et Baldur lui propose de reprendre sa place en tant que roi, mais il refuse et décide de laisser Baldur à la tête de Asgard.
D'ailleurs, donc tout Asgard n'est donc pas détruit au fait.
Bah, il est en ruine quoi, mais il n'est pas complètement détruit. Mais par contre, il décide de devenir son conseiller. Un peu comme Loki était le conseiller de Baldur pendant que Thor était exilé. Cette fois-ci, c'est Thor qui va être défenseur et conseiller de Baldur. Déjà, il nous remet en place tranquillement un petit peu les choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Le statu quo, quoi, en fait.
Voilà. Ensuite, il y avait donc cette histoire avec Siege, où Ragnarok était écrasé par la cité Asgard quand elle était tombée. Et ouais. Volstagg essaye de déblayer un petit peu les ruines et découvre un corps sous un monceau de pierre, et c'était en fait le clone de Thor, Ragnarok, qui n'était pas mort, hein, malgré qu'il soit écrasé par Asgard.
Oh non, encore lui, voilà. C'est pas possible.
Il se relève et puis bah Thor, étant dans la cité avec Baldur, va affronter Ragnarok. Et bon, je vais spoiler un petit peu, mais de toute façon, il n'y a vraiment pas de. Voilà, il n'y a pas grand spoil.
Bah, dis-nous qu'il arrive au moins à le buter, Ragnarok.
Ah bah, il le tue définitivement cette fois-ci.
Ah, bah c'est la bonne nouvelle alors.
Bon voilà, c'est une bonne baston qui est pas très très longue. Hein. Elle prend, même pas une dizaine de pages, donc c'est pas non plus tout le numéro. C'est presque plus un épisode de dialogue qu'un épisode d'action. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Donc voilà, il le détruit. D'ailleurs, sous la peau de Ragnarok, on se rend compte que c'est ni plus ni moins qu'un T-800, hein, comme dans Terminator.
Ouais, j'avais eu cette impression dans Civil War, en fait. Mais
Un peu comme le clone robotisé de Superman, quoi. L'éradicateur.
D'accord.
Pas l'éradicateur, pardon. L'autre, enfin celui qui était devenu un Yellow Lantern.
D'accord.
Le cyborg Superman, voilà.
Voilà, c'est ça.
Y a aussi, alors j'ai oublié son nom, la fille qui était amoureuse de l'humain sur Asgard. J'ai totalement oublié son nom. Désolé. Qui elle est morte et elle voit que Bill est toujours là et elle va essayer de trouver un moyen. Comme elle dit, on avait déjà trouvé un moyen pour être ensemble alors que lui n'était que mortel et moi une déesse. On va bien arriver à trouver un moyen pour que moi morte et lui vivant, on puisse encore être ensemble. Donc voilà, il nous pose quelques petits trucs, et il conclut beaucoup de choses, donc à partir du prochain épisode, il va repartir sur vraiment autre chose. L'épisode est sympathique, franchement, bon, ça reste quand même assez moyen, c'est pas un grand épisode de Thor, mais c'est un épisode sympa, qui en plus peut être lu comme ça, au tout venant, quoi.
Ouais, et puis ça peut être un bail juste parce que Ragnarok se fait exploser, donc rien que pour ça, c'est tellement du bonheur de voir enfin disparaître que... Voilà.
Voilà, donc bon, un épisode sympa, mais sans plus. On passe à la suite, de ton côté, on est toujours chez Marvel, je crois.
Oui, alors moi j'ai lu cette fois-ci le enfin le premier Thunderbolts nouvelle génération, puisque ça change quasiment tous les ans Thunderbolts en ce moment. Donc là c'était le numéro 144. Il est écrit toujours par Jeff Parker qui a repris la série depuis quelques numéros, et c'est dessiné par Kev Walker. Les graphiquement bon, c'est correct, bon, sans plus, quoi. Je suis pas super super fan. Par exemple, le premier problème que j'ai eu, c'est que Luke Cage, là, dès son apparition, il a la tête de Gauntlet, au fait. Ah. Puisqu'il a des énormes gants aux mains en plus, donc on a l'impression que c'est Gauntlet de l'initiative, au fait. Au début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et j'ai mis quelques secondes à me dire, bah non, c'est Luke Cage, bien sûr. Et donc, bah, au fait, Luke Cage, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient recruter, au fait, dans ce numéro, au Raft, des anciens super-vilains, pour les repentir, et surtout, pour qu'il intègre sa nouvelle équipe de Thunderbolts. Bon, alors, déjà, sur le choix de la nouvelle équipe, il y a quand même des surprises et des trucs un peu bizarres. Par exemple, il recrute Mansing, quand même.
Ouais.
Donc, on en parlait l'autre fois, alors je sais plus si c'était par rapport à ça.
Qui est pas vraiment un super vilain d'ailleurs.
Alors et en plus le plus étonnant c'est même pas ça, c'est que en gros il lui laisse pas le choix, c'est soit il les rejoint, soit il crève.
D'accord, bon bah super.
Donc c'est du Luke Cage assez bizarre quoi. C'est-à-dire que c'est pas Luke Cage qui lui dit ça, mais en gros on sent que c'est pas du out of character, mais presque quoi. Je sais pas, c'est assez bizarre quoi. Luke Cage agit assez bizarrement, j'ai trouvé dans cet épisode. Donc il se retrouve avec une équipe. Alors je sais pas si on va spoiler tous les membres de la nouvelle équipe.
Bah tout dépend, est-ce que c'est des grosses révélations ou pas quoi.
Bon, on peut le dire hein, je pense hein. Donc les nouveaux Thunderbolts de Luke Cage sont constitués de Songbeard, de Opal, donc on retrouve quand même des anciens membres. Mmh. Il y a Mac 5, donc l'ex Carabée qui est aussi là, donc voilà des anciens membres. On a Ghost qui reste des Thunderbolts d'Osborne. Mm-hmm. Et on a surtout deux nouveaux arrivants et pas des moindres. On a Crossbones, donc ouais. Captain America.
Étrange.
Et Juggernaut.
Ah ouais, étrange.
Ouais. On a Juggernaut et Mansing donc. Et voilà, donc c'est encore une équipe comme Secret Invasions. Il y a quelques anciens, donc on comprend ce qu'ils viennent faire là, mais alors les nouveaux, c'est un peu surprenant. Donc bon, là, leur motivation est assez bien quand même expliquée chacun. En tout cas, ils passent plus de temps, Jeff Parker, à nous expliquer pourquoi ils rejoignent l'équipe que Brubaker dans Secret Invasions. Ma seule réserve, c'est vraiment sur le personnage de Luke Cage comme leader, parce que Luke Cage, c'était un petit peu avant le personnage accusé à tort. Et là, on a l'impression qu'il essaye de trouver la rédemption à travers le fait d'être leader de cette équipe. Pourtant, bon, il a pas grand-chose à se reprocher, quoi, Luke Cage. C'est un peu bizarre. Je le trouve vraiment. Enfin, voilà, je pense que c'est le mauvais leader, quoi. Les Thunderbolts auraient dû trouver un autre leader que Luke Cage. Je sais pas. Moi, ça me. Ou bien alors c'est Jeff Parker qui le tient bizarrement. Mais voilà. Écrit sous la plume de Jeff Parker, je l'ai trouvé un peu bizarre, quoi. J'ai pas l'impression que c'est le même personnage qu'on a l'habitude de voir dans Avengers, quoi, par Bendis. C'est un petit peu le problème que j'ai eu. Sinon, ça se termine sur l'arrivée d'un personnage bien connu des Thunderbolts, mais je vais pas spoiler lequel. Voilà. Et c'est intéressant quand même. C'est intéressant. J'ai envie de voir où ça va. J'ai envie de voir qu'est-ce que va faire cette nouvelle équipe. Donc, ça m'a un peu plus intéressé que Secret Avengers, à ma grande surprise d'ailleurs, puisque j'attendais rien de Thunderbolts. Et finalement, j'ai trouvé ça peut-être limite plus sympa.
Ah d'accord, bah très bien.
Voilà.
Donc tu le conseilles, quoi.
Bah, je le conseille, ouais, parce que ce serait dommage d'arrêter Thunderbolts la création d'une nouvelle équipe. Faut voir où ça va. À moins que les prochains numéros soient vraiment calamiteux, mais... une nouvelle équipe, un scénariste qui est arrivé récemment puisqu'il avait pris la suite d'Andy Deagle. Bon, à voir, franchement à voir. Moi franchement c'est au moins un check-it et un bail pour qui a suivi les Thunderbolts ces dernières années.
Ok.
Voilà.
On passe à la dernière review cette fois-ci c'est de nouveau un DC, Green Lantern volume 4 numéro 54, scénario de Jeff Jones, dessin de Doug Mankey. À l'ancrage on retrouve Christian Alamy, Tom Nguyen, Keith Champagne et Doug Mankey lui-même. C'est la deuxième partie donc du nouvel arc suite à la fin de Blackest Night qui s'appelle New Guardians. On apprend un petit peu et certains chefs entre guillemets du corps se retrouvent sur Terre, et notamment Atrocitus qui est là avec le chat toujours
Oui, le
rémanentaire,
fameux petit chat là qu'on voyait, enfin.
et qui se trouve dans le métro où il y a une attaque par des mecs qui veulent piquer un petit peu tout ce que les passagers ont, et il arrête les voleurs et il les tue complètement, hein. Donc voilà, et tout en protégeant les innocents. Il a fait sortir tout le monde du train et a détruit et a tué en fait tout simplement ces voleurs. Donc un comportement assez étrange. De leur côté, il y a cette fameuse lanterne blanche qui est dans l'état du Nouveau-Mexique. On a Sinestro, Hal et Carole qui sont là, qui cherchent à essayer de la soulever. C'est un petit peu comme l'épée d'Excalibur. C'est-à-dire qu'ils essayent de la soulever, mais personne n'arrive à la soulever. Et quand ils la
D'accord.
touchent tous les trois en même temps pour la soulever, ils ont des images. Et la lanterne leur parle en leur disant d'aller chercher plusieurs personnes. Et en fait, ce sont ni plus ni moins que les entités qui représentent chaque couleur. Comme on avait Ion et Parallax qui représentaient respectivement les Green Lanternes et les Yellow Lanternes, on apprend qui sont les entités qui représentent chaque couleur de chaque corps. Et donc, ils doivent aller à leur poursuite. On a aussi le retour d'un membre du corps qui s'était sacrifié. Bah, de toute façon, je vais être obligé d'en parler un petit peu. C'est le retour à la vie de Sodamiat.
Ah ok.
Donc voilà. Et Ion, parce qu'on vient lui parler, en fait, on vient de sortir de ce soleil, et on lui enlève le pouvoir de Ion, et Ion est enfermé à l'endroit où était enfermé Parallax, sur une espèce de grande stèle qui porte le symbole des Green Lanternes, et on voit qu'il y a les stèles de chaque couleur autour. Donc il y a quelqu'un qui essaye d'enfermer toutes les entités qui représentent chaque couleur. À voir ce qu'il va en faire.
C'est bizarre que Sodamiens revienne alors que, par exemple, on l'a vu dans le dernier Titan. Enfin non, dans le dernier Légion, pardon.
Oui, mais il était mort, mais comment allait-il ressusciter ça? Voilà, et là il est en fin de retour.
D'accord, ok.
Donc voilà. Ensuite on revient sur Hal et Sinestro et Carole qui décident d'aller chercher toutes ces entités et qui commencent par Atrocitus qui est sur Terre. Ils sont automatiquement téléportés par la lanterne blanche. Ils trouvent Atrocitus dans le métro. Et s'ensuit un début de combat entre Hal et Atrocitus, et le combat qui est interrompu par quelqu'un qui arrive, et quelle personne? Je n'en dirai pas plus, à vous découvrir qui c'est. Franchement, très très bon épisode. Green Lantern continue bien, j'avais peur que ça s'écroule après Blackest Night, honnêtement, parce que bah, c'était tellement gros, comment repartir? Et là, il y a vraiment matière à faire une très très bonne histoire, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, vraiment excellent. Donc pour moi, c'est définitivement un bail.
Ok, bah écoute.
Honnêtement, ce que j'ai lu de mieux cette semaine.
Toujours Geoff Jones, hein, c'est ça, hein.
Toujours Geoff Johns au scénario, bien sûr.
D'accord.
Voilà. Bon, c'est tout pour cette semaine. Avant de se quitter, on avait reçu un petit mail de quelqu'un qui nous félicitait pour le nouveau magazine. Donc merci. Et il nous dit qu'il avait envie de se mettre à la VO, et notamment à Zatanna. Et il se demande un petit peu où se procurer les VO, que ce soit sur le net ou en boutique. Alors sur le net, moi j'ai quelques adresses. Je pourrais conseiller en site américain Mile High Comics. Là c'est plus pour des back issues en général. Sinon vous avez Things from Another World. Alors bien sûr, le problème c'est qu'il y a les frais de port, toujours. Donc ça, il faut faire attention avec ça. Parce que ça peut très vite monter quand c'est expédié des États-Unis en France. Ou en version anglaise, donc avec des frais de port un peu moins chers, puisque plus près de chez nous, vous avez The Book Depository. Donc de simple recherche Google, vous trouverez facilement les adresses. Et puis bah, si vous êtes plutôt intéressé, pas par des singles, mais plutôt par des trades, bah pourquoi se compliquer la vie? Autant aller chercher sur Amazon directement, c'est plus simple. Après, au niveau boutique, bah toi qui es sur Paris, tu dois plus facilement les connaître.
Bah
Donc
ouais, enfin le problème c'est que effectivement cette personne nous a pas précisé son lieu géographique, sa location, donc voilà, donc c'est un peu compliqué parce que bon sur Paris effectivement il y a toujours près du boulevard Saint-Germain les Albums où il y a la rue Dante avec Pulps, il y a enfin bon il y en a plein,
Il y a
dans
Arkham
ce
aussi,
quartier.
qui qui peut-être pas dans le même quartier. Je connais tellement peu la géographie parisienne que voilà.
Dans le 15e, il y a la librairie de Coninck qui est vraiment très bien fournie aussi. Il y en a plein. Franchement, dans Paris, on pourrait pas tous les citer tellement il y en a. Donc, il devrait pas avoir de mal à trouver des boutiques comics sur Paris. À la rigueur, une petite recherche sur Internet et il en trouve déjà toute une liste. Par contre, s'il est en province, par exemple, s'il est dans le Nord, il y a Astro City à Lille qui est très très bien. J'y suis allé récemment. Voilà. Après, je sais pas quoi. Dans le Sud, je sais pas ce qui reste. Je sais que les albums ont fermé les trois quarts. Je crois qu'il y en a toujours un à Toulouse, par exemple. C'est Montpellier, album Montpellier qui doit toujours exister. Franchement, ça dépend de la région dans laquelle il est, et comme il l'a pas précisé, c'est un peu compliqué de conseiller des magasins. Donc à la rigueur, s'il nous fait parvenir sa location géographique, et bien comme ça on pourra l'aiguiller un peu plus, peut-être.
Voilà. J'espère qu'on a pu bien répondre à la question de Guérôme. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties de la semaine prochaine. Hein. Voilà, encore la même vanne que la dernière fois.
qui a toujours son petit effet d'ailleurs.
Oui, qui est toujours aussi minable, faut être honnête. Non, soyons francs. Et donc, comme d'habitude, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien.
À bientôt.